bienvenue dans les oreilles loin du front. Ce soir, Juliette, nous accueillons. Alors, on fera en fait deux sujets du jour. On commencera avec Xonanji du collectif Case Rebelle. On parlera avec elle d'afro-révolution, de pan-afro-révolution même, et du bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « Sans portrait contre l'État policier ». Et c'est publié aux éditions Syleps. Et puis, après, on poursuivra avec Whistle, qui fait partie du collectif de féministes contre le cyberharcèlement.
Les oreilles loin du front, c'est dans un instant et c'est jusqu'à 8h30.
Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse. Je l'ai pas connue, je suis noir, né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore un rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse. Pourquoi suis-je si radical? Me méfie des mains tendues trop amicales. Aucune tendresse pour mes tours verticales, ni la bonne humeur de mon île tropicale. Tout ce que j'énumère n'a aucun humour, est noir et amer, froid et sans amour, fade et sans saveur, et a dans son sommaire un lexique et une grammaire pour cracher sur leur mère. Pourquoi suis-je si marginal? Épouse la cause du faible de façon machinale, ne vois que du complot dans les lignes du journal, n'arrive à dormir que dans un bruit infernal. Puisque j'ai les nerfs, l'impression qu'on m'ignore, et que de toute manière on en veut à ma crinière. C'est sans aucune lumière que je sors de ma tanière, avec un poignard imprimé sur la bannière. Pourquoi suis-je si peu sociable, aussi sensible, pénible, irresponsable, et me sens seul quand mes semblables me prennent pour cible? Pourquoi être stable dans ma tête est impossible? Parce que j'ai vu venir de loin mon calvaire, braquer mon avenir avec un revolver. Je préfère vous prévenir, j'ai de la colère dans le regard quand je marche sur vos boulevards. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse. Je l'ai pas connue, je suis noir et né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore un rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse. Cette belle insouciance de l'enfance, moi elle me ramène à ma province, à Rouen, jolie petite ville de France, où quand le nègre passe, y a des dents qui grincent. Je vous en prie, s'il vous plaît, tuez-les tous, vous ma très sainte Marie, pleine de grâce. J'ai sorti les ciseaux de ma trousse avec la frousse et l'intention de leur faire mal à la sortie de classe. Je rumine, je ressasse, sans cesse je repense au son d'eau dans ma face qui a tué ma petite enfance. Et ces baves de la dame de service, j'ai fait payer son fils, à la finale c'est moi qui le punisse. Et dans ma jeunesse, je leur ai filé la jaunisse. Au collège, ils me connaissent, se plaignent et ils gémissent. La proviseure est une connasse qui me vire et me menace d'appeler la police pour ma sale tignasse. Et les profs me provoquent, chaque jour me convoquent et me disent qu'on me scolarise pour les allocs. Donc je réplique, moi l'enfant de la République, on me rétorque que tout ce que je mérite c'est des claques. Donc j'attaque, affrontement physique et mise à sac. Ma tête est comme saturée et à bloc. Tout ça n'a pas de sens, mais tout ça laisse des traces. Et je ne dis rien à ma mère le soir quand elle m'embrasse. Cette belle insouciance de l'enfance qui plus tard laisse place à la sagesse. Je l'ai pas connue, je suis noir et né en France et maintenu en position de faiblesse. Et aujourd'hui encore un rien me blesse. Et pourtant j'ai tout fait pour que passent mes traumatismes. Mais c'est dur, il faut que je le reconnaisse. Et y a peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse.
Y a peu de chance que ça se tasse avec la vieillesse.
Vous voulez dire, il suffit de peu de choses pour construire un enragé. Il suffit de peu de choses pour construire un engagé. Quelques humiliations ou quelques injures suffisent.
Il y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse.
Tragédie d'une trajectoire.
Il y a peu de chances que ça se tasse avec la vieillesse.
We'll be right back.
Voilà, vous aurez reconnu Cazet, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 à l'écoute des oreilles loin du front.
Et oui, c'était tragédie d'une trajectoire puisqu'on va commencer en fait l'émission ce soir avec Xonanji qui fait partie du collectif Case Rebelle. Donc c'est un collectif noir militant créé en 2010 et panafro-révolutionnaire. Et c'est un Xonanji et fait partie du collectif et elle est illustratrice et elle a participé entre autres à l'élaboration d'un bouquin qui s'appelle « Sans portrait contre l'état policier ». C'est publié aux éditions Sileps et c'est, ça coûte à peu près, quoi, ça coûte vraiment 10 euros et c'est un bouquin autour, autour des violences policières et ça sort juste en ce moment. D'ailleurs là, on va voir Xonanji à l'antenne incessamment sous peu. Et vous pouvez aller faire un tour sur leur site internet pour en savoir un peu plus. C'est Case Rebelle, case avec un S, tiré, rebelle avec un S, point org. Puisqu'en fait, ils font à la fois des émissions de radio, il y a des articles, des entretiens, et c'est transdisciplinaire. Donc bonsoir Xonanji.
Bonsoir.
On venait de présenter un tout petit peu Case Rebelle en disant que c'était un collectif noir militant panafro-révolutionnaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus ?
Oui, en fait, c'est un collectif qu'on a créé en 2010. Voilà, et donc, à la base, donc avec la volonté de faire quelque chose un peu en autonomie sur notre propre espace, ça a commencé par un texte manifeste qui exposait voilà, nos positions afrocentrées, féministes, décoloniales. Et puis, très vite, il y a eu une émission de radio qui est arrivée. Et voilà, on a avancé comme ça. Ensuite, les émissions de radio, enfin, il y a eu des articles qui se sont ajoutés. Et on travaille comme ça, en fait, sur des actions militantes, on va dire, locales, avec d'autres personnes. Et puis aussi en produisant... voilà, nos propres réalisations, en faisant des interviews et plus récemment donc en faisant ce livre.
Et vous faites des activités aussi qui sont... Là, on parlait d'événements politiques, mais il y a toute une dimension culturelle qui est très importante, puisque vous parlez beaucoup de musique, vous parlez de poésie, de littérature.
Oui, oui, tout à fait. Bah, en fait, on considère que, de toute façon, c'est porteur d'analyse politique, de nos histoires, c'est des choses voilà, qu'on peut aussi se réapproprier dans une optique d'auto-éducation. L'art pour nous c'est pas du tout déconnecté de l'action politique en fait. Donc ouais, ça reste quelque chose d'important. C'est des choses qu'on inclut systématiquement dans ce qu'on fait, que ce soit voilà, des interventions, des actions le contenu de nos émissions. Quoi.
Et puis, tout à l'heure, je parlais de panafro-révolution et d'être panafro-révolutionnaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que ça veut dire exactement ?
En fait, c'est l'idée de se reconnecter, enfin de reconnecter les luttes noires, les peuples noirs. L'idée que la libération, notre libération, elle peut se faire que... à travers une reconnexion en fait, donc voilà, une réappropriation de nos histoires et une convergence des différentes luttes après sur des axes variés, on va dire, enfin parce que comment dire, nous on considère que qu'il faut lutter contre toutes les oppressions en même temps, mais voilà, le côté panafro-révolutionnaire, c'est vraiment ça, c'est panafricain révolutionnaire, quoi.
Oui, parce que c'est, vous parlez à la fois du côté africain, mais il y a aussi toute une dimension sur les Antilles et puis une dimension sur les histoires migratoires aussi.
Oui, voilà, la reconnexion, c'est ça. Hein, le panafricain, c'est au sens large, en fait. C'est pas seulement à l'échelle du continent africain. C'est vraiment l'Afrique, c'est diaspora. Donc, que ce soit aussi avec les peuples noirs qui ont été... qui sont afrodescendants, descendants d'esclaves, voilà, d'Africains déportés, les diasporas qui sont liés à la migration aussi. Donc, pour nous, c'est vraiment, on va dire, fondamental, en fait, quoi, ces reconnexions-là.
Et puis, dans votre collectif, on sent qu'il y a un côté aussi, une dimension féministe qui est très, très développée. Vous êtes à la fois des hommes, des femmes. Je sens qu'il y a quelque chose d'important.
Oui, oui, oui. Bah, en fait... Ça, c'est aussi quelque chose voilà, qui est là depuis le départ, parce que c'est des choses qu'on porte, des luttes qu'on porte individuellement, qu'on a envie de mener donc, avec le collectif Case Rebelle. Parce que ça fait partie, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, enfin, des oppressions à travailler aussi. Donc voilà, sur les questions de genre, de sexualité, pour nous, c'est quelque chose de, ouais, de central, en fait.
Et il y a combien de personnes dans le collectif, à peu près ?
On est une équipe de, on va dire, 5-6 personnes, avec des gens qui, ponctuellement aussi, peuvent venir voilà, travailler avec nous.
Et vous faites énormément de choses, en fait, hein, puisque ce qu'on disait, c'est qu'il y avait quand même une émission de radio. Vous avez au téléphone aussi, parce que vous venez de publier un bouquin. Un bouquin, donc, je crois que c'est toi qui as fait les dessins, Xonanji. Donc, c'est 100 portraits contre l'État policier. C'est publié aux éditions Sileps. Et c'est un bouquin très fort, en fait, qui retrace un peu une contre-histoire des violences policières.
Oui. En fait, c'est un projet qui a commencé avec, à la base, des portraits pour une commémoration pour Lamine Dieng, donc, qui a été tué par la police en juin 2007. Et du coup, voilà, on a commencé par des portraits à la base en 2015. On avait amené des portraits de victimes américaines, donc qui sont des dessins de l'artiste Ori Original.
Et que vous aviez mis dans la rue, en fait, c'est ça ?
Oui, voilà, en fait. Donc, et en 2016, on a voulu donc aussi parler des autres victimes, puisque de toute façon, c'est quelque chose que chaque famille fait aussi pendant les commémorations, hein, de rappeler qu'il y a d'autres victimes. Et donc en 2016, on s'est intéressé aux victimes de la police française. Donc ça ne concerne pas seulement le territoire français ici, hein, ça concerne aussi
les Antilles, les colonies.
Et voilà, et du coup, c'est là que on est en capacité de dessiner aussi ces portraits. 100, c'est un chiffre arbitraire, parce que bien sûr, il y a beaucoup plus de victimes que ça si on remonte dans le temps, parce que nous, on est remonté jusqu'en 1947. Et voilà, donc ça c'était vraiment les premières étapes du projet. Et puis il y avait de toute façon la volonté d'en faire, de continuer, d'en faire autre chose, que ce soit à la fois dans la rue, mais que d'en faire un outil militant qui puisse se partager autrement. Et donc il y a eu la possibilité de faire ce livre, donc, qui est sorti il n'y a pas très longtemps.
Donc c'est à la fois un livre en fait, où il y a le portrait des personnes qui ont été assassinées par la police ou les gendarmes ou en tout cas l'État policier français, et à la fois des dessins, c'est les deux, à la fois le parcours, les conditions de ces assassinats et les dessins un peu en ligne claire que tu as fait, où on voit on donne à voir ces personnes.
Oui, c'est ça, en fait, c'est le projet, c'est un hommage en fait à ces personnes-là aussi, au combat des familles. Donc là, c'est vraiment ça, c'est un dessin, et puis sur la page d'en face, un texte qui résume les circonstances dans lesquelles les personnes sont décédées. Donc voilà, c'est des textes qui sont assez courts, qui ne rentrent pas forcément dans le détail des affaires, parce que c'est toujours très compliqué, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, et chaque affaire mériterait un livre pour vraiment tout expliquer. Là, l'idée, c'est aussi de donner envie au lecteur d'aller voir plus loin, d'aller en savoir plus sur les affaires, en tout cas celles qui ne sont pas forcément connues des lecteurs, ou si les gens veulent avoir plus de détails. Et puis, ça permet aussi de rassembler sans affaires, sans victimes sur 70 ans. Donc pour montrer un peu que c'est pas des hasards, que c'est pas des accidents, qu'il y a un peu un systématisme et une impunité sur ces affaires-là.
Et quand tu parles justement de ces 100 victimes, est-ce que c'est une liste, on va dire, qui est à peu près exhaustive ? Tu disais que vous remontiez jusqu'à 1947. Est-ce que donc on peut considérer qu'il y en a eu que, entre guillemets, même si c'est déjà énorme, une centaine, ou c'est vraiment un choix subjectif qui a été fait de prendre 100 personnes pour illustrer des cas précis ?
Non, là, c'est vraiment un choix. Hein. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est arbitraire. On n'a pas fait un calcul, parce que c'est difficile de savoir, en fait. Nous, on s'est basé sur des sources documentaires qu'on avait. Donc, voilà, c'est de la presse, c'est des recensements qui sont faits depuis des années par des militants, sur des contacts qu'on avait avec des familles. Voilà, on a les gens dont on a parlé. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de qui est dans le bouquin, qui n'y est pas et pourquoi. Mais ça correspond aux informations suffisantes qu'on avait, au fait que les familles étaient d'accord aussi pour qu'on mentionne leurs proches, qu'on fasse des dessins. Et voilà. Et puis il y a aussi, donc il y a un travail aussi de vérification des informations, de recoupement. Il y a des échanges avec les familles, voilà, pour expliciter les faits.
Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, avec
vraiment le chiffre, c'est nous qui l'avons choisi, quoi. Il y a évidemment beaucoup plus, et malheureusement, beaucoup plus que 100 victimes sur 70 années, quoi.
Oui, effectivement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'affaire Adama Traoré ou l'affaire Théo, ce livre est éminemment d'actualité. J'imagine qu'avec votre collectif Case Rebelle, vous êtes en lutte en ce moment sur ces sujets. Vous avez des...
Oui, nous on soutient, les familles. Il y a des familles avec qui on est en lien plus étroit. On participe à des mobilisations. On se déplace aussi pour aller sur des mobilisations dans notre ville, à Paris notamment. Les dessins, ça va aussi au-delà du livre parce que il y en a qu'on diffuse aussi, qui sont imprimés sous forme de pancartes pour des mobilisations. Donc c'est quand je parlais d'outils militants aussi, c'est ça. C'est-à-dire, ça peut être l'information sur ce qui est arrivé aux victimes, sur les affaires, mais c'est aussi le dessin, pouvoir se réapproprier les portraits pour se mobiliser, pour lutter dans la rue aussi, voilà, et mettre en tout cas ce travail artistique au service de la lutte, quoi.
Ouais, effectivement, c'est vraiment un super outil. En tout cas, merci d'être passé, d'avoir répondu à ce coup de fil. Donc, pour avoir plus d'informations sur Case Rebelle, c'est case au pluriel tiré rebelle avec un s.org. Et puis, pour terminer ce petit entretien, Xonandji, on va écouter un extrait d'une de vos émissions, une émission que vous aviez fait avec Kazé. Donc, on va écouter ça. Merci.
Merci à vous.
On en fait partie de la société, on fait partie du tissu social. Tu vois, et bon, il y a le gros du bloc qui émet une espèce de pensée commune, une pensée un peu moyenne. Mais sinon, il y a tout ce qui peut graviter, qui est censé graviter aux extérieurs ou dans les marges. Mais c'est là que ça joue. C'est pour moi, c'est là que les choses se disent. Donc voilà. Et quand tu es en France, ou que tu es renois, ou que tu es rebeu, ou que tu es musulman, ou que tu es... Ou que t'es PD, ou que t'es nain, ou que t'es... Enfin, toujours, à un moment, t'auras un problème. Voilà. C'est ça, ton regard sur la société. C'est comme ça que tu vas la regarder. T'auras un problème. À un moment, tu vas poser un problème, tu seras pas dans les codes, tu vois. Et cette façon de pas être dans les codes, elle te dit, elle te parle de la société dans laquelle tu vis, tu vois. Elle t'envoie des signaux, en fait, tu vois. Sur ce que la société voudrait, comment elle se voit, comment elle se voudrait, et comment toi, tu n'y es pas, tu as perdu. Et c'est ça qui est mortel. C'est ça qui est intéressant. Enfin, quand les gens vont chercher par là, expliquer ça, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que tu crées des brèches dans le système, en fait. Parce que tous ces gens-là, tous ces exclus, tu vois, ils existent, eux. Ils existent et ils parlent. Et c'est bien ça le problème, en fait. Depuis qu'ils parlent, ça pose un problème. Quand on parlait à leur place, tout allait bien, tu vois. Mais depuis qu'ils s'expriment, ça pose un problème. Mais c'est... Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, que ce soit en littérature, en cinéma, en musique. Quand tu vas chercher vraiment dans le fin fond du gouffre, c'est là où c'est pas mal, tu vois. Tout ce que je peux dire sur tout ce qui est mouvement LGBT ou queer, c'est que j'imagine bien, en plus, afro. J'imagine que... Tout ça, c'est des couches qui se superposent. C'est-à-dire que quand en France, ils en sont encore, et ça aussi, c'est le côté vieux de la France, encore à des questions, est-ce que c'est la race ou est-ce que c'est la classe ? Non, c'est tout. Il y en a, ils cumulent, vous savez même pas comment ils cumulent les mandats. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Puisque vous êtes encore à des questions de race ou de classe. Qu'est-ce que tu fais d'une femme noire, homosexuelle, handicapée ? Enfin, qu'est-ce que t'en fais ? Tu vois ? Donc je me dis, c'est dans ces mouvements-là aussi que le rapport sur le monde est peut-être le plus juste et le plus vrai. Parce que t'es tellement à la marge que la société, tu peux la regarder que telle qu'elle est. Parce que devant toi, elle se montre vraiment telle qu'elle est. Parce qu'elle te méprise tellement, elle te snob tellement, tu représentes tellement rien, qu'elle se montrera toujours sous son vrai visage. C'est-à-dire le visage le plus violent, le visage le plus méprisant. Donc tu la connais et tu la cernes telle qu'elle est. Donc voilà, pour moi, la vérité, c'est à peu près là qu'elle se situe. Tu vois, là, les LGBT, les clochards aussi, tu vois, qui sont, parce que tu peux être à la rue, clochard, homosexuel, noir, enfin, tu peux tout cumuler. Et là, la société, elle te fera pas de cadeau, elle se montrera telle qu'elle est. Telle qu'elle est, c'est-à-dire elle te prendra de haut. Donc beaucoup de respect pour ceux qui arrivent à être eux-mêmes. Vraiment à être eux-mêmes et à s'émanciper, quoi. Et à être toi-même, voilà. Ce qui est le plus dur dans la vie, c'est d'être soi-même.
Et oui, c'était un extrait d'un entretien réalisé par le collectif Case Rebelle avec Kazé. Et vous pouvez réécouter cette émission et d'ailleurs toutes leurs émissions parce qu'il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment une super émission sur leur site internet case avec un s-rebelle avec un s.org. Et cet entretien avec Kazé, c'est l'émission numéro 57.
There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. Oh, is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Et oui, vous l'avez reconnu, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front, et c'était Tracy Chapman qui chantait « Why ».
Et là, on va passer à un sujet un peu différent. On a avec nous en plateau une invitée, Wissal, du collectif des féministes contre le cyberharcèlement. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être venue nous rendre visite. Du coup, tu es membre de ce collectif, donc vous êtes focalisée vraiment sur la lutte contre le cyberharcèlement. Comment ça marche exactement et comment vous vous êtes créée ?
On s'est créé il y a un peu plus d'un an, et deux mois, il me semble, à la fin de l'année 2015. De base, c'est parti d'un constat sur Twitter. On avait remarqué que tous les jours, à peu près, il y avait des comptes qui s'étaient peu à peu spécialisés dans le harcèlement de jeunes filles. On remarquait aussi que ces jeunes filles étaient très souvent racisées, issues de quartiers populaires, et que certaines de nos membres elles-mêmes avaient été victimes de cyberharcèlement, de leakage de nudes, c'est-à-dire de diffusion de photos privées, de revenge porn après une relation. Ce qu'on a fait, c'est que de base, on était une très grande discussion en privé sur Twitter. On était une cinquantaine, une centaine au début. Et peu à peu, on a décidé de se rejoindre autour du hashtag Twitter Against Women, pardon, qui cherchait en fait à dénoncer l'inaction de Twitter. On se disait qu'à l'époque, c'était beaucoup trop compliqué de chercher à détruire tout ça dans l'immédiat le patriarcat, et qu'en attendant, le seul truc qu'on pouvait faire, c'était demander aux réseaux sociaux de prendre de réelles décisions et de protéger ses utilisateurs. Par la suite, on s'est rencontrés une première fois, puis une deuxième fois, une troisième fois. On a été extrêmement sollicités médiatiquement. On a eu l'opportunité d'articuler notre parole, de faire passer d'ailleurs. On a largement contribué à la loi contre le revenge porn, qui était un amendement de la loi numérique. Et d'être invité dans pas mal de plateaux, dans des journaux, ce genre de choses, qui nous a permis peu à peu de mettre le doigt sur ce que pas mal de personnes considèrent comme étant un problème un peu pas très important en marge de la vie quotidienne, qui n'est pas forcément lié ni à la misogynie ni au racisme, mais qui en réalité est à la cristallisation évidente de ces problèmes-là.
Et du coup, ce que vous avez remarqué, c'est que ça a frappé particulièrement des femmes ou des personnes identifiées comme femmes, et particulièrement des personnes racisées, que c'était particulièrement virulent contre cette population, en fait.
Exactement. Un jour, je me rappelle, on avait été invité, j'avais été invité à un plateau, et une avocate qui était spécialisée dans tout ce qui était information privée, internet et tout, nous avait dit que la plupart des clientes qui venaient la contacter étaient des femmes d'un certain âge, d'un certain milieu aisé. En fait, on s'est rendu compte que c'est absolument pas parlant, en ce sens que les victimes, c'était celles qui avaient justement le moins accès aux droits et qui allaient le moins oser venir dans un cabinet d'avocats dans les beaux quartiers de Paris. De manière extrêmement... basée sur notre propre expérience, en fait, on s'est rendu compte que ces jeunes filles-là étaient souvent victimes de cyberharcèlement avec des insultes qui mêlaient à la fois mépris de classe, racisme et sexisme. Nous, de base, on a beaucoup articulé tout ce qu'il y avait de dangereux, tous les ressorts qui étaient extrêmement oppressifs derrière le mot « beurette », notamment derrière le mot « niafou ». Même avec nos propres vécus, je pense que c'est l'une d'ailleurs de nos forces, on est toutes extrêmement, on est assez jeunes quand même, la majorité entre 20 et 25 ans dans le collectif, et on a toutes assisté, on a toutes été témoins un petit peu de ce type de cyberharcèlement, avec des insultes, avec des ressorts oppressifs qui étaient extrêmement difficiles à analyser en réalité, parce que en France, déjà, on a un gros problème pour parler de race, pour parler de problèmes de classe, et qu'en plus de ça, on a vraiment l'impression que Twitter, que l'Internet, en règle générale, c'est quelque chose qui échappe un peu au droit, et que tout ce qui s'y passe, il suffit de fermer son ordinateur, de se concentrer dans la vraie vie, et que c'est des faux problèmes.
Et alors, justement, ces termes, par exemple, de beurette et de niafou, qu'est-ce que ça a permis, votre action, de mettre en évidence ? Pourquoi ces termes-là sont utilisés, sont insultants en fait ?
Ce qu'on a mis en avant à chaque fois qu'on a articulé un thread là-dessus sur Twitter ou lors d'interventions beaucoup plus universitaires, c'était l'origine profondément raciste de ces mots. Toute la reprise d'une narration coloniale extrêmement déshumanisante, d'une tradition qui a hypersexualisé les femmes racisées, les femmes de l'Empire colonial français. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'avais été invitée à Sciences Po pour parler de la déshumanisation des femmes maghrébines à travers le terme beurette et montrer tout ce que ce terme qu'on a tendance un petit peu à attribuer aux jeunes de cité, aux rappeurs, aux racisés, c'est en fait juste une reprise de toute la narration qu'on peut trouver chez des grands auteurs français comme Maupassant, par exemple, comme René-François de Chateaubriand, qui exaltait une figure de la femme maghrébine extrêmement mystérieuse, avec une sexualité extrêmement libérée, pathologique, malsaine, malaisante, sur laquelle elle n'avait jamais en réalité la main, et que c'est extrêmement dangereux en fait à l'heure actuelle d'exalter un petit peu ce qu'on voudrait être le cadavre du colonialisme et qui en fait se perpétue totalement.
Et c'est une façon, j'imagine, aussi de désigner une catégorie de personnes racisées sous l'apparence de quelque chose qui n'est pas nécessairement insultant. Enfin, j'imagine que c'est un des arguments d'excuse qui est donné, quoi.
On a tendance, on a beaucoup, beaucoup vu dans la sphère médiatique et dans la sphère politique, il y a un côté un petit peu inoffensif quand on essaye. Mais en fait, c'est extrêmement pernicieux. En ce sens que le racisme, c'est pas seulement la haine pure de l'autre, c'est aussi une condescendance, un mépris. Et quelque chose qui est extrêmement sensible, notamment dans le rapport avec les femmes, quelque chose d'extrêmement invalidant, qui en fait empêche tout simplement une individualité, qui l'empêche un peu de s'articuler en tant qu'être humain et qu'être social. Nous, ce qui nous a paru extrêmement, ce qu'on a beaucoup entendu, c'était notamment, je me rappelle plus, dans une émission de télé, un monsieur qui disait, qui est assez connu, qui disait, oui, les beurettes avant, elles étaient mignonnes à la cité, et puis on pouvait les draguer, ce genre de choses, et maintenant elles portent le voile, et c'est plus comme avant. C'est un peu ce qui m'a... Ça a été un peu un déclic un petit peu au sein du collectif. Ça a pas mal nourri nos discussions parce qu'on s'est rendu compte que ça posait... Il y avait tout un problème de la race qui ne dit pas son nom en France, qui est encore interdite. Et de ce racisme, en fait, qu'on refuse de reconnaître, comme on pense que comme il est interdit de parler de race, on a intérêt le problème.
Et alors, le terme niafou, du coup, c'est insultant. Du coup, pour les femmes noires, c'est désigné pour... Enfin, ça sert à désigner des femmes noires.
Exactement, ça sert à désigner les femmes noires. Pour le coup, je suis pas la meilleure pour vous en parler, n'étant moi-même pas concernée par cette insulte, mais pour avoir assisté à des débats avec d'autres membres du collectif qui, elles, y ont été confrontées, que ça soit à l'insulte en elle-même ou à cette espèce de narration qui voudrait que la femme noire est extrêmement animalisée. En fait, vous reprenez toute l'œuvre d'Angela Davis, c'est peu ou prou la même chose. L'idée qu'elle est à la fois extrêmement... Que c'est un monstre extrêmement sexualisé, qu'en même temps elle est incapable d'être une femme comme une femme blanche pourrait l'être, qu'elle ne ressent pas la douleur, qu'elle n'est pas désirable au sens traditionnel du terme, sont des critères extrêmement occidentaux centrés. Et que parallèlement à ça, elle est très sale, en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. Il y a souvent des espèces d'expéditions punitives avec des jeunes filles et toute cette idée que cette jeune fille a une vie sexuelle débridée, cette jeune fille est sale, cette jeune fille a perdu, en fait, ce qui faisait toute sa valeur.
Et alors, vous avez choisi, vous répondez individuellement aux personnes qui vous insultent ou qui insultent certaines personnes sur les réseaux sociaux, où le choix est justement fait de pas tellement répondre individuellement, mais plutôt interpeller la plateforme.
Exactement. En général, on essaie plutôt de contacter la victime et de lui montrer un petit peu tous les outils qui lui sont proposés dans ce genre de situation. Il faut savoir que quand on est victime de cyberharcèlement, on est dans une situation où, la première chose à laquelle on pense et qu'on envisage, c'est un peu le retrait des réseaux sociaux, d'Internet, ce genre de choses. Et c'est un peu l'objectif recherché par tous les harceleurs, qu'ils se sentent victorieux, quoi, en fait, quand on désactive après avoir été victime de cyberharcèlement. Par la suite, ce qu'on essaie de faire, c'est déjà de leur proposer, de leur venir en aide, de leur marquer notre soutien, de leur montrer tout ce qui est à leur disponibilité, toutes les démarches qu'elles peuvent entreprendre d'un point de vue légal, mais aussi sur Internet. Et marquer son soutien, on a déjà été amené à le faire de manière assez... Pour quand c'est des personnalités un peu publiques qu'on connaît, moins des gens pas trop connus, de manière qui utilisent les réseaux sociaux de manière un peu isolée. On essaie on l'a déjà fait, de mener des espèces d'entreprises où en gros on remplit les mentions de choses positives. C'est symboliquement, en fait, c'est très fort parce que déjà, quand on est victime de cyberharcèlement, chaque mention, chaque vibrement de notre téléphone a profondément anxiogène parce qu'elle peut être porteuse d'un message extrêmement haineux et recevoir plein de notifications qui disent oui écoute je vois ce qui t'arrive et je suis désolée, je suis là pour toi et je trouve que tu fais du bon boulot, etc. Et en plus de ça, ça permet aussi d'effacer sur Twitter. Il faut savoir que si par exemple pendant toute une soirée il y a tout le Twitter français qui se met sur votre dos, il y a des chances que ça reste en fait sur Internet, et ça c'est profondément pernicieux pour la suite, notamment en termes de recherche d'emploi. Psychologiquement, c'est dur de se dire que voilà, si on tape son nom, on va avoir plein de tweets haineux qui nous sont adressés. Et le fait de tout de suite, dans la même soirée, remplir les mentions de quelqu'un qui a été harcelé avec des choses positives, ou même de produire du contenu en règle générale, ça a beaucoup d'avantages.
Donc c'est une lutte en fait pour le référencement. Enfin, disons que ça tient compte en fait de cette dimension du référencement.
Sachant qu'il y a un avocat qui était là encore spécialisé, nous avait dit que c'était la meilleure des choses à faire quand par exemple des photos de soi, on était dénudé, avaient été révélées, de se créer un compte LinkedIn, Facebook, d'occuper mais le plus de réseaux sociaux possible. Le problème, c'est que quand on est victime de ce genre de choses, c'est pas la première chose auquel on pense, se créer des comptes. Donc nous, on essaie un petit peu d'avoir cette action. Ça peut être assez intéressant de le faire.
Et qui sont ces harceleurs, en fait? On a une idée un peu du profil?
En fait, on n'a pas pu trop faire... Enfin, on a essayé à plusieurs reprises de faire une espèce de portrait robot, mais le problème, c'est que les harceleurs, c'est tout le monde. Ça peut réellement, pour le coup, être tout le monde. Ça peut être aussi bien des hommes que des femmes, beaucoup plus les hommes que les femmes, il est nécessaire de le souligner. Hein. Mais on nous a déjà dit, oui, les femmes harcèlent aussi. Dans une ambition un petit peu d'avoir sa table à la place des grands et d'aller dans le sens du système, c'est totalement compréhensible, en fait, d'aller dans ce genre de choses, même si je ne le plus sois pas. Cependant, oui, ce sont souvent des hommes. Et en fait, c'est pas possible de vous donner un portrait type parce qu'en fait, ils sont de tous les âges, ils sont de toutes les appartenances ethniques, de toutes les classes sociales. Et quand c'est pas du cyberharcèlement bien crasse comme auquel nous on a été confrontés, c'est-à-dire quelqu'un sur Twitter qui va tenir des propos éhontés, ça peut tout simplement être à l'Assemblée nationale avec un propos qui est particulièrement déshumanisant et qui va déclencher une vague de haine sur les réseaux sociaux.
Et ça, du coup, ça fait aussi partie de votre cible.
Absolument. En fait, nous, on se pose un peu comme lanceur d'alerte. On est présent aussi bien sur Twitter que sur Facebook. Et on a n'importe quelle opportunité pour s'exprimer, pour dénoncer ce qui est profondément oppressif dans un propos aussi bien politique que médiatique. On l'apprend en réalité. Un exemple tout bête aujourd'hui, je crois que c'était dans je vais peut-être pas donner le nom du magazine, mais il y a une famille politique africaine qui avait rencontré la reine d'Angleterre avec des habits traditionnels. Et le journal avait dit qu'en fait il n'y avait pas d'effort, cette famille politique n'avait pas fait d'effort, tout en reprenant un petit peu toute la narration selon laquelle, en fait, si on s'habille pas comme des blancs, on s'habille pas bien. Tout simplement, alors qu'on sait, enfin, quand on a un petit peu la connaissance de ce genre de pays, on sait très bien que voilà, c'est le costume traditionnel, que le maître, c'est un signe de respect pour celui qu'on va recevoir ou qu'on va rencontrer, et qu'il suffit de, en fait, sortir 20 secondes de ses principes et de sa façon de penser extrêmement centrée sur l'Occident pour se rendre compte que voilà, il n'y a pas de problème en réalité. Et pour le coup, nous, on l'a signalé, ce genre de choses.
Sachant que sur cette photo, la reine d'Angleterre ressemblait à un petit poussin et que ça pouvait être aussi un déguisement. Si on n'était pas ethnocentré, elle était tout aussi ridicule, quoi, tout aussi étrange, enfin, en tout cas.
Je suis totalement d'accord avec vous, d'autant plus que la reine d'Angleterre est quand même à la tête d'un des pays qui a eu le plus grand empire colonial.
Et que c'était des gens
qui étaient issus d'une ancienne colonie britannique. Donc le rapport de force est assez marrant, d'autant plus que c'est un média français qui s'est emparé, qui s'est empressé un petit peu de sombrer dans cette espèce de racisme caractérisé, donc c'était assez chiant.
Funky game. The slowdown life is getting to me. Holding up my head before I see right through. Whole rotten thing is blowing my mind. Wearing me down, I'm using up my time. Why don't you step back and set me free? Cause you can't love me if you don't respect me.
C'était Lynn Collins sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Alors ce soir...
Et on continue à parler cyberharcèlement en compagnie de Juliette, de Céline, et puis d'Alex à la platine, et bien sûr de notre invité.
De Wissal, du collectif féministe contre le cyberharcèlement.
Est-ce qu'on peut revenir peut-être un instant sur à quel moment commence le cyberharcèlement, c'est-à-dire à quel moment il faut s'en inquiéter et il faut réagir?
En fait, je pense que de manière individuelle, on sent le malaise très rapidement dès qu'on se sent plus en sécurité, aussi bien sur Internet, sur les réseaux sociaux, que aussi dans la vraie vie. Si par exemple, on a un ancien compagnon qui nous harcèle au téléphone, on se rend compte que c'est du cyberharcèlement. De manière plus concrète, sur les réseaux, quand on peut mettre en évidence un espèce de mécanisme où il y a quelqu'un d'assez influent en fait, sur les réseaux sociaux, où à défaut d'être influent, on va avoir quelque chose, genre une sextape ou une photo dénudée. Va un peu initier tout un mouvement autour de toute une expédition punitive autour d'une victime, souvent une jeune fille ou une femme. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a un petit peu une incitation de la part de celui qui initie tout ce lynchage, qu'il délivre en tout... Enfin, on sait très bien, ils le savent très bien, ce qu'ils font au moment où ils diffusent les photos sur Internet. Ils savent très bien à quel point ils exposent les victimes, à quel point ça peut être dangereux. D'ailleurs, c'est souvent une menace. Donc, ils n'ont absolument aucune excuse. En réalité, ils savent très bien dans quoi ils s'engagent. On peut parler de cyberharcèlement.
Et puis, c'est peut-être l'occasion de rappeler que si on en parle justement ce soir, c'est parce que ça peut aller, les conséquences peuvent aller très très loin. Ça peut aller jusqu'au suicide Absolument. De la personne. Et c'est pour ça que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère, contrairement à ce que voulaient nous faire croire certains.
Et puis, quand on parle de harcèlement, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui reçoivent 100 messages par heure, 200, 300, 24 heures sur 24, que c'est quand même vraiment quelque chose... éminemment puissant.
D'ailleurs, on peut peut-être en profiter pour faire une spéciale dédicace à Denis Baupin ce soir. Voilà, à propos de cyberharcèlement, même s'il y a prescription, nous le rappelons, Denis Baupin n'a pas été jugé innocent.
Et il porte plainte contre ses victimes.
contre Europe Écologie Les Verts et contre les victimes qui l'ont effectivement accusé de harcèlement. Voilà.
Effectivement, nous sommes à la Journée internationale pour les droits des femmes.
Et du coup, dans ce collectif, vous êtes combien ?
À l'heure actuelle, on est 6.
Mais en fait, de ce que tu décris, si par exemple, j'ai l'impression qu'à la fois vous faites une veille pour repérer les cyberharceleurs et les personnes victimes, qu'en même temps vous apportez votre soutien, etc. Enfin, on a l'impression que c'est un job à plein temps, en fait.
C'est vrai que pour le coup, en fait, on s'est un peu. On a une tâche de travail qui est assez énorme, une masse de travail assez importante. Mais on s'est un petit peu divisé chacune. On a un peu notre spécialité selon ce qu'on aime faire, selon les études qu'on fait aussi, ce qu'on va faire par la suite, là, on est la meilleure. Donc ça se passe relativement bien, même s'il y a des moments où on est, en fait, on est en perpétuel rush.
Et du coup, par exemple, toi, c'est quoi ta spécialité ?
Recherche. En général, je fais pas mal de Fred. Je suis assez invitée d'un point de vue universitaire. J'ai déjà fait des conférences, tout ce qui est intervention médiatique où il faut articuler une parole, ce genre de choses. C'est ça ma spécialité.
Et du coup, mais ça veut dire que du coup, ouais, vous êtes vraiment constamment. Enfin, vous êtes en veille quand même toutes. Un peu régulièrement pour repérer ce qui se passe.
Exactement. En fait, on a un groupe assez réduit et qu'on s'apprécie toutes personnellement, ça fait que la formation tourne extrêmement vite. On est tout le temps en train de se parler. D'ailleurs, là, je suis en train de leur parler. Sur tous les réseaux sociaux, en fait, c'est une manière assez. On n'en rate absolument pas une. Il n'y a pas un sujet d'actualité qui passe pas au crible entre nous.
Et tu viens de dire toutes, c'est-à-dire il n'y a pas d'hommes dans votre collectif. Est-ce que c'est dommage ? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait justement aussi un ou deux garçons peut-être qui s'intéressent avec vous au sujet ?
Bah non.
Vous avez raison.
Non, en fait, quelqu'un nous l'avait déjà dit en nous conseillant pour qu'on soit plus médiatisé, ce genre de choses, d'avoir des hommes au sein de notre collectif. Mais en fait, déjà, on a des alliés hommes. C'est ce que je tiens à souligner. On ne ferme pas notre porte au soutien des hommes. Il y en a pas mal qui relayent nos propos. Et c'est très bien. C'est un rôle d'allié qu'ils prennent très au sérieux et qui est nécessaire. Cependant, nous, on s'entend très bien entre nous. On fait le job entre nous. Donc, je ne vois pas pourquoi on se forcerait un peu pour être respectable politiquement en France.
Et votre collectif, il est composé uniquement de personnes racisées ?
Il me semble qu'on est toutes racisées, mais on n'est pas toutes afrodescendantes pour le coup. On est toutes racisées dans la majorité. Ouais.
Et après, la lutte contre le cyberharcèlement, elle porte contre le cyberharcèlement contre les femmes.
Non, on a déjà été amené à prendre à montrer en fait ce qui. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il y a des hommes qui sont victimes de cyberharcèlement. Par exemple, suite à la diffusion d'une vidéo à caractère pornographique. Et souvent, ces vidéos à caractère pornographique, elles sont insultantes pour l'homme uniquement parce qu'il a été représenté dans une position désavantageuse pour lui. C'est-à-dire que soit s'il est homosexuel, ce qui est socialement répréhendé, je tiens à rappeler que c'est absolument pas notre position à nous. Soit en plus de ça, soit il a des pratiques sexuelles qu'on considère comme étant déviantes, ce genre de choses. C'est-à-dire que si c'est un rapport hétérosexuel traditionnel, tout ce qu'il y a de plus normal, on va se dire, on va continuer notre vie, quoi.
Et par exemple, vous vous mobilisez aussi en cas de cyberharcèlement grossophobe.
Oui, en cas de cyberharcèlement. En général, la grossophobie est souvent associée à la misogynie. Il y a toute une relation entre les deux, avec toute l'idée qu'une femme, si elle ne correspond pas aux critères et aux canons de beauté occidentaux, n'est pas désirable et perd toute sa valeur. Donc oui, bien sûr, on adresse la grossophobie. On essaie d'articuler le plus possible à chaque fois.
Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des outils. Des outils que les victimes peuvent mobiliser, que ce soit des outils légaux ou l'interpellation ou je sais pas la saisine des réseaux sociaux, enfin des entreprises qui détiennent ces réseaux sociaux. Quels sont justement exactement ces outils ?
Déjà sur Twitter, on a remarqué que signaler en masse un tweet ne suffisait pas toujours à le faire supprimer. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de nudes, de vidéos porno qui ne sont pas considérées comme trash par Twitter, on est sûr qu'avec Twitter, on les supprimera jamais, même quand on réussit à motiver 100, 200 personnes à le signaler. Ce qu'une victime peut faire lorsque ses tweets, lorsque des photos d'elle, par exemple, ont été diffusées, ce qui est le cas auquel on est le plus confronté et qu'on connaît le mieux, c'est d'aller à l'accueil de Twitter. Il y a une possibilité pour elle de demander de l'aide directement, mais le problème, c'est que c'est extrêmement long. Ça prend entre 10 et 15 étapes. Il faut mettre une photo de sa carte d'identité. Il faut mettre à chaque fois tous les tweets qui sont insultants, sachant qu'en général, il y en a beaucoup de base, et plus il y en a, plus il y en a. Il faut mettre le lien, il faut caractériser chaque tweet en disant s'il incite à la haine, s'il pousse au suicide, ce genre de choses qui est extrêmement flou à chaque fois, et sachant qu'à aucun moment on a la possibilité de définir l'agression comme étant une agression misogyne par exemple, ou raciste, ou ce genre de choses. Un raciste un peu plus, mais misogyne absolument pas. Et c'est extrêmement problématique, et c'est quelque chose pour lequel on s'est énormément battu, le fait de reconnaître qu'il est possible d'agresser ou de tenir des propos misogynes qui sont fortement préjudiciables sur les réseaux sociaux. Outre ces actions qu'on peut mener sur Twitter, il est même nécessaire de garder une trace de ces tweets, sachant qu'une capture d'écran n'est pas suffisante en général, parce qu'on peut faire des montages. Donc il faut passer par un site spécialisé dont je ne me rappelle plus le nom et qui en fait est souvent supprimé. Il faut ensuite se rendre au commissariat de police, sachant qu'en général au commissariat de police on a quand même pas mal de chances de se retrouver confronté à quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas et qui ne sait même pas ce que c'est Twitter.
Wow. Et juste, tu disais le signaler à Twitter, en fait, ça se fait où ? Ça se fait sur
Ça se fait à l'accueil de Twitter. Ça, en fait,
mais
c'est
à l'accueil physique ?
Non, du tout. À l'accueil, genre quand on se déconnecte de quand on se déconnecte de Twitter ou au début, genre quand on tape juste http://twitter.com, c'est assez caché en fait. Et j'aurais bien aimé que ça soit un peu plus mis en valeur parce que pour le coup, c'est un peu le seul truc qui fait le job et qui s'assure que les photos seront. Enfin, c'est le truc qui est la procédure qui est la plus à même à faire supprimer les photos.
Quel outil on a pour justement faire encore progresser Twitter et d'autres sites sur ces questions-là ? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez au sein du collectif qu'il y a une écoute de Twitter, même si ça avance doucement, ou il y a vraiment un mur parce que c'est une société étrangère, qu'elle ne craint pas grand-chose, que la loi lui laisse beaucoup de liberté et que donc tout ça va en très peu progresser, on va dire ?
En fait, on n'a pas vraiment l'impression d'être écouté. On a déjà rencontré Twitter. Et ça mène absolument rien, enfin, puisqu'à l'heure actuelle, il y a toujours du cyberharcèlement, malheureusement, autant qu'il y en avait l'an dernier. Et pour le coup, oui, enfin, ils sont dans une position de puissance. Légalement, il n'y a rien qui se passe contre eux. Il y a un suicide tous les 2-3 mois. Donc bon, sachant que ça ne sera jamais qu'ils seront considérés comme problématiques ou coupables et qu'à chaque fois, ça sera la responsabilité individuelle du harceleur qui sera au centre des débats. Ils n'ont absolument aucun intérêt puisqu'ils ont beaucoup d'utilisateurs. Et ce qu'on avait essayé de faire à un moment et qui est un peu problématique en ce sens que c'est difficile pour nous de se soustraire à toutes ces informations, à ces outils-là, c'est pour toutes les femmes d'arrêter d'utiliser tous les réseaux sociaux qui sont aussi misogynes. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'autres... On peut aller nulle part ailleurs, quoi, pour le coup, et que c'est nous que ça va handicaper si on n'a plus accès à Twitter ou Facebook, pour le coup.
Et du coup, ça veut dire que les représentants, du coup, j'imagine, de Twitter en France vous ont reçu, voilà, on fait oui, et puis voilà, c'est tout, quoi.
C'est à peu près là, c'est ce qui s'est passé, oui.
Question naïve, Twitter, c'est totalement anonyme. Quand on s'inscrit, il suffit juste de mettre un pseudonyme ou il faut faire quelque chose de...
En fait, bon, de base, on vous demande votre nom et votre prénom, ce qu'on va mettre au début, et bon, très rapidement... Vous pouvez changer pour mettre un pseudo, ce genre de choses. Beaucoup de gens mettent un pseudo, la majorité ont leur réelle identité avec leur vraie photo, ce genre de choses.
Il n'y a pas de vérification de Twitter, de toutes les façons.
Pour l'identité, il est possible, en fait, pour les célébrités, genre Beyoncé ou Rihanna, d'avoir un...
vraiment Beyoncé qui voilà. Écrit.
Non, mais quand on est assez célèbre, sachant, enfin, c'est surtout pour limiter tous les risques de fake, ce genre de choses, on a un petit double check bleu. Twitter. Et pour le coup, non, ils ne vérifient pas, mais en général, ils n'ont pas réellement besoin, puisqu'on va pas mal parler, on va pas mal se dévoiler sur Twitter, que ça soit soi-même ou ses positions politiques sur l'actualité, ce genre de choses. C'est un réseau social qui, de base, était justement censé c'était juste censé être basé sur l'information, et au final, les jeunes se sont vraiment réappropriés le réseau. pour en faire un espèce de un prolongement de Facebook un peu plus libéré. On peut pour le coup aborder des sujets qui sont extrêmement larges. Et moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était extrêmement plaisant. On pouvait parler de plein de choses sur Twitter. On pouvait parler de sexualité, on pouvait parler de politique, on pouvait parler de nos peurs, de nos ambitions à l'école, ce genre de choses. Ce qu'on pouvait pas faire sur Facebook, parce que bon, voilà, on va pas faire un statut tous les jours en disant oui, je sais pas trop ce que je vais faire l'an prochain pour le bac et tout. Mais pour le coup, ça fait que c'est d'autant plus problématique parce que c'est l'un des réseaux sur lesquels qui nous a un peu permis, nous, en tant que jeunes, de libérer notre parole, de s'allier, de s'associer, de se saisir de certains ressorts. Moi, c'est un peu Twitter qui m'a permis de tout connaître sur l'intersectionnalité, par exemple. Mais parallèlement à ça, on est exposé à plein de menaces, en fait.
Mais du coup, ce que tu veux dire, c'est que vous utilisez Twitter un peu comme une espèce de forum où vous pouvez chatter et réagir à ce que les uns et les autres disent.
Ouais.
Ben je sais, je me sens tout d'un coup super vieille.
On n'utilise plus les forums en 2010. Non, ouais, c'est ça en fait. Pour le coup, c'est... j'ai connu un moment quand j'étais un petit peu très très jeune, quand j'avais 10-12 ans, les forums. Et c'est vrai que pour le coup, Twitter, c'est ce qui se rapproche le plus. On peut avoir des discussions qui sont assez intéressantes. On peut supprimer les tweets le lendemain, ce qui est assez pas mal quand on a des parents qui nous surveillent un petit peu. C'était vraiment l'endroit où on avait le plus de liberté pendant un moment, quoi.
Et là, du coup, tu nous as vachement parlé de Twitter sur les interpellations. Et par exemple, Facebook, vous avez rencontré Facebook France où vos actions sont vraiment... je sais pas, il y a moins de cyberharcèlement sur Facebook.
Non, il y a tout autant de cyber. Il y a même des groupes Facebook qui sont consacrés. Il y a pas mal de affiches beurrettes et niafou du 93, ce genre de choses. Des groupes entiers qui sont dédiés à la diffusion de photos. Et en fait, ça, c'est des groupes qui ont une espèce d'entité extrêmement influente parce qu'en fait, c'est lié à aucune personne. C'est une personne, deux personnes, trois personnes qui vont s'en occuper. Et ça a des participations individuelles. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement valorisant pour celui qui a réussi à obtenir des photos dénudées d'une jeune fille, d'envoyer ses photos et en toute impunité, en fait, l'humilier et s'assurer que sa vie sera un enfer pour au minimum les 6 prochains mois, sans rien avoir à craindre, en fait.
Et du coup, vous observez une différence entre Twitter et Facebook ?
Personnellement, je suis beaucoup moins une utilisatrice de Facebook, mais je sais que c'est que quand on est, enfin, pendant la période du collège, ça peut être un endroit extrêmement menaçant pour les jeunes. On a assisté plusieurs fois à des déferlements d'insultes, notamment. Mais en fait, Twitter, c'est beaucoup plus, enfin, Facebook, c'est beaucoup plus proche. Ça va être les gens du collège, les gens du lycée, les gens de la famille, les gens de la ville. Alors que pour Twitter, on a déjà eu des affaires où il y avait des gens de la France entière, quoi, qui se mobilisaient, quoi.
Et en matière de réponse entre Twitter et Facebook, les deux sont aussi désengagés et désinvoltes.
À peu près la même chose. Par contre, ils ont déjà, enfin, Twitter avait déjà admis que voilà, ils n'étaient pas très top au niveau de tout ce qui était cyberharcèlement. Outre le constat, ils n'ont pas fait grand-chose. Idem pour Facebook, qui a mis en place quelques petites mesures en début d'année, mais qui sont assez anecdotiques, somme toute. Donc, on n'est pas satisfaite.
She takes just like a woman, yes, she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks like a little girl. Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, every
everybody knows the baby's got new clothes lately. I see her ribbons and her bows, and the problems from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. And she makes love just like a woman. And she aches just like a woman. And she breaks like a little girl. Raining from the first, and everybody knows I was dying of thirst. So I came here, a long time's curse, and what's worse is this pain.
Et oui, c'était Nina Simone et vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front et ce soir on part de cyberharcèlement.
Tout à fait, on est avec Wissal, membre du collectif féministe contre le cyberharcèlement et donc on explore cet univers dirty et féministe. Du coup, une des questions, voilà, tu nous expliquais avant la pause que Twitter ou Facebook sont... dans leur discours plein de bonne volonté, mais en pratique très inactif. Est-ce que vous avez aussi sollicité les pouvoirs publics, genre le ministère des droits des femmes, par exemple ou...
Au moment où, où le collectif s'est créé, la ministre, je crois que c'était Najat Vallaud-Belkacem. Donc c'était cool, on était pleine d'espoir et tout, puis ça a changé. Et depuis, on ne se fait plus trop d'illusions. Quoi. Enfin, on sait très bien que c'est... C'est extrêmement problématique, d'autant plus que nous, on cherche vraiment à articuler notamment l'intersection entre genre et race, et que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Cependant, on a eu l'opportunité à plusieurs reprises d'adresser le constat que je vous ai présenté plutôt à l'Assemblée nationale, 3 ou 4 fois, il me semble. J'y vais jamais, parce que j'aime vraiment pas l'Assemblée nationale. Mais mes camarades l'ont fait avec beaucoup de talent. Cependant, c'est assez compliqué parce qu'en général, en fait, on parle, on a des statistiques, on essaie de faire peser notre parole, on essaie de l'articuler au maximum pour au final que ça change pas grand chose. On a juste, enfin, en général, on a juste des espèces de regards genre ah oui, en effet, c'est dramatique et pas grand chose à côté.
Du coup, il y a eu, parce que tout à l'heure, alors ça c'est un autre, tu parlais du secrétariat d'État au numérique, enfin de la loi, il y avait un amendement dans la loi sur la République numérique qui a été adopté. C'est ça en fait la mesure qui a été adoptée pour lutter contre le cyberharcèlement. Enfin, ouais, il y a eu une mesure.
C'était un amendement, sachant que bon après, enfin il y avait quand même pas mal de, c'était une loi qui existait déjà auparavant. Il me semble qu'il y avait des circonstances aggravantes du type si la personne qui diffuse les photos étaient un compagnon, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, il y a une notion d'abus de pouvoir et de confiance. C'était une circonstance aggravante. Il y avait ce genre de choses qui sont entrées en compte, et c'est assez intéressant, sachant que bon, ces lois sont extrêmement subtiles. C'est des débats qui se font à l'Assemblée nationale, et déjà nous, enfin, on a accès à des sphères qui sont assez élevées. C'est un peu cette chance en tant que collectif d'être un peu invité à droite à gauche et avec des grands mots, articuler tout ce qui se passe, mais pour celles qui sont pour le coup vraiment victimes de cyberharcèlement, cette loi-là, non seulement elles s'en fichent, mais elles n'en entendront jamais parler. Je tiens encore à le répéter, même si on nous dit tout le temps que voilà, la police fait ce qu'elle peut, quand on va porter plainte dans la majorité des commissariats, on a beaucoup de chances de se retrouver confronté, si ce n'est à l'ignorance pure et simple du problème auquel on est confronté, du mépris, de la condescendance. On a déjà, de manière empirique, on m'a déjà dit à une victime qu'on connaît très bien, dites que sur les photos c'est pas vous, c'est que internet, la prochaine fois vous ferez plus attention. Nous-mêmes au commissariat, le samedi on se bourre la gueule et on prend des photos, et on n'en fait pas tout un plat. Qu'est-ce que c'est que Twitter, je comprends pas trop comment ça marche, je peux rien faire pour vous, ce genre de choses.
Ouais, donc des gens pas du tout formés et qui en fait ont des, enfin ça a des effets en fait carrément nocifs quoi.
Exactement, quand on connaît les conséquences du cyberharcèlement en règle générale, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, ça se manifeste en fait là, ça a à peu près les mêmes conséquences que soit un harcèlement scolaire, soit une agression sexuelle. C'est-à-dire que voilà, il peut y avoir dépression, isolement social, phobie sociale et scolaire. Anxiété, troubles du comportement alimentaire, insomnie, et ça peut aller jusqu'au suicide.
Et du coup, vous avez des contacts aussi avec des associations de soutien aux victimes, en général, vers qui vous orientez des personnes victimes ou pas ?
En général, bon, déjà, on fait pas mal de, enfin, on se vante un petit peu de ce côté-là. On fait pas mal de travail en matière de tout ce qui est psychologie, ce genre de choses, self-care. On essaie d'articuler le plus possible ce qui est assez inaccessible en règle générale, sachant que aller chez un psychologue, ça coûte cher. Et non seulement, enfin, quand c'est gratuit ou que ça a un coût assez dérisoire, on peut, pour certaines, venir de contextes sociaux et familiaux qui nous disent que bon, c'est pas pour nous, quoi. Que...
Puis on se considère comme malade parfois quand on va chez un psychologue. Exactement. Donc il y a un côté quand même où il faut pas franchir le pas.
Il y a pas mal de... Tout en sachant que tous les psychologues ne sont pas les meilleurs et ne sont pas forcément, quand on est victime de cyberharcèlement, ne sont pas forcément non plus au fait de ce qui se passe, et qu'une expérience négative peut nous décourager sur le long terme. Outre cette espèce de veille, cette espèce de vulgarisation de concepts psychologiques qu'on propose, une de nos membres, Laure Salmona, fait partie d'une association sur la traumatologie qui est extrêmement, enfin qui en France, pour le coup, pèse énormément, plus que nous, et qui articule tout ce qui est nécessaire, en fait, tout ce qu'on peut, tout ce à quoi on est confronté en tant que victime. Elle le fait, en fait, ils le font très bien, parce que pour le coup, ils ont vraiment du personnel médical qui est adapté, Muriel Salmona notamment, qui est docteur, qui, pour le coup, a les qualifications, et c'est pas juste contenté de lire 2-3 livres comme nous, on l'a fait, quoi.
Ouais, donc vous êtes en lien avec des associations féministes, en fait, qui sont à même de soit vous accompagner, vous, dans la prise en charge des victimes, ou de prendre en charge les victimes, ou de les orienter vers des prises en charge, quoi.
Exactement, on est totalement capable aussi, on a une liste qui peuvent, enfin, on sait vers qui orienter les victimes si elles ont formulé la demande. Le problème, là encore, c'est que très peu le font. Parce que quand on est victime de cyberharcèlement, franchement, tout va tellement vite et on a tellement honte que c'est la dernière chose qu'on a envie de faire, en fait, se poser sur un divan et raconter sa vie. Donc, c'est pas forcément... Enfin, c'est quelque chose qu'on propose, mais c'est pas quelque chose qu'on nous demande le plus.
Et en fait, face au manque de réaction de Twitter et de Facebook, qu'est-ce qu'il faudrait lancer comme appel aujourd'hui ? Est-ce que le plus important, c'est pas de dire, en fait, aux utilisateurs, aux utilisatrices, tu disais tout à l'heure, on pourrait aller sur un autre réseau social s'il y en avait, mais comme il n'y en a pas...
Harceler les hommes ?
On reste... Non, alors pas les harceler, mais justement, dénoncer, ne pas prendre ça à la légère. Et je repense à ce qui est arrivé à une amie à nous, il n'y a pas longtemps, qui a fait un article sur la taille des poches dans les pantalons de filles ou d'hommes, qui n'est pas non plus le sujet, on pourrait penser, le plus clivant du monde. Et qui s'est pris un déferlement d'insultes et d'injures. Voilà. Et donc, peut-être prendre conscience que ça peut arriver à tout le monde sur un sujet qui peut être le plus basique du monde. C'est pas forcément, tiens, demain, il y aura des photos de moi nues sur Twitter, mais c'est peut-être qu'un jour, je vais juste dire un mot qui va pas plaire à certains, et puis ça va faire traîner de poudre. Donc, réagir tout de suite, réagir quand on voit des amis qui sont... victime de ça, c'est ça l'important, peut-être que chacun prenne conscience du risque.
Exactement. Pour rebondir sur ton propos, j'ai assisté, en fait, j'ai été témoin de tout ce cyberharcèlement. Et ce qui est assez flagrant dans cette affaire, c'est qu'on a cherché, en fait, à punir le fait qu'elle ait voulu se saisir d'une parole féministe. Il y a eu toute la narration de « Ah, mais les féministes, elles sont complètement hystériques, c'est n'importe quoi, elles cherchent les noises là où il y a des problèmes, là où il n'y en a pas. Il y a des femmes qui meurent en Afrique, pourquoi elles nous saoulent pour des poches de jeans ?» Alors que pour le coup, l'article, c'était assez bien écrit et c'était nécessaire et elle n'avait pas la prétention à non plus à résoudre et à dénoncer toutes les... Non, exactement, je suis d'accord
c'était
avec toi.
C'était un état de fait, quoi.
Non, voilà, c'était
un questionnement.
Non, mais c'était vraiment intéressant, c'était appréciable. Pour le coup, en tant que témoin, parce que on a plus... statistiquement, on est plus souvent témoin de cyberharcèlement que l'on est victime. On est victime plusieurs, peut-être une, deux, trois, quatre fois dans sa vie. Mais on est témoin beaucoup plus de fois, vu qu'on connaît des gens et qu'on y assiste sur Twitter. On peut faire des choses, déjà, ne pas retweeter, ne pas liker, ne serait-ce que pour dénoncer ce genre de tweet. C'est extrêmement important, l'idée de donner le moins possible de crédit à ces personnes-là. De ne pas nourrir ce genre de choses. Et aussi, en fait, un peu une intention qui peut se révéler parfois pernicieuse, ne pas non plus aller voir la victime en lui disant « oui, je suis désolée » en privé, en lui dire « oui, je vois ce qui t'arrive, et puis voilà, moi je t'aime bien, t'es gentil, ne les écoute pas ». Je dis ça parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, on se met un petit peu, on a pas mal d'empathie, on se met à la place de la victime, on se dit « bon, je vais lui donner un petit peu d'amour, mais comme je l'ai déjà dit, quand on est victime de cyberharcèlement, notre téléphone vibre toutes les 20 secondes. Et avoir un message hyper gentil qu'on va essayer de lire, on n'est juste tout simplement pas émotionnellement disponible pour ce genre de choses. Et ça peut la saouler, quoi, la personne à ce moment-là. Donc c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. On peut alerter le problème, on peut essayer de lui proposer une aide à la limite judiciaire, mais de manière extrêmement concrète, ne pas nourrir le feu et se renseigner le mieux possible sur ce qu'il y a à faire.
Et oui, juste, ça me fait penser cette mention d'aide judiciaire. C'est efficace d'engager des actions en justice, de solliciter des avocats ou des avocats contre le cyberharcèlement ?
Si l'affaire est particulièrement salace, ouais. Enfin, ça peut, c'est-à-dire que nous, on a assisté à, pour le coup, ça a marché que déjà, sachant que, bon, entamer des actions en justice, ça ne mènera à rien si on n'a pas d'avocat, on nous l'a dit, les avocats nous l'ont dit. Concrètement, si tout seul, on arrive au commissariat et qu'on dit, voilà, j'étais victime de cyberharcèlement, on m'insulte sur les réseaux sociaux, sans avocat, c'est pratiquement impossible de se faire entendre. En partant de là, je tiens à souligner en fait à quel point c'est difficile d'aller embaucher un avocat pour ce genre de choses. Une fois que c'est fait, si l'affaire est vraiment sale et qu'on a les moyens, il peut y avoir condamnation. Si par exemple la personne s'est déjà donnée à d'autres cas de cyberharcèlement auparavant, c'est encore mieux entre guillemets en ce sens qu'elle a plus de chances d'être condamnée. Mais en général, la justice est assez permissive en fait vis-à-vis de ce qui est considéré des erreurs de jeunesse.
Ok. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur tous ces enjeux. Peut-être tu peux nous indiquer comment on a des informations sur le collectif. Vous avez un site internet ?
On est, on est présente. On a un Tumblr, un Instagram, un Facebook et un Twitter parce qu'on se dit autant être présente sur toutes les plateformes. Et à chaque fois, c'est la même chose. Sur Instagram, on est VestCyberH. Sur Facebook, on est le collectif contre le cyberharcèlement. Sur Twitter aussi et sur Tumblr aussi.
Eh ben, merci beaucoup d'être passé dans nos studios.
Merci à vous.